Est-ce qu'un style musical doit rester figé dans son époque d'origine ? Plus le temps passe et plus on transmet collectivement une idée très codifiée de ce qu'est un courant. Ses instruments, son rythme, ses thèmes, et même son cadre de création et d'écoute. On crée ainsi des archétypes en retirant les nuances et particularités qui vont pourtant faire évoluer cette musique vers autre chose. On se fixe sur l'esthétique et on délaisse l'intention de base. Pourtant l'intention, c'est ce qui peut redonner un peu de vie à un genre qui est là depuis des siècles. Bonjour tout le monde, je suis Manu et bienvenue pour cette 9ème boisson chaude des tartines fraîches, la petite chronique musicale hebdomadaire. Le sujet du jour aurait pu être une simple recommandation mais méritait un peu plus de volume. Je suis tombé sur un article de NPR, la radio publique aux États-Unis, sur un groupe de musique de chambre qui a décidé d'utiliser le classique pour aborder des sujets difficiles d'aujourd'hui. L'Apollo Chamber Players nous vient de Houston au Texas et a décidé de consacrer sa saison à la question de la censure. Intitulé Silence Voices, donc des voix réduites au silence, ce programme propose des compositions qui répondent à la situation actuelle dans l'État, où de plus en plus de livres sont interdits. Ils ont même chamboulé leur agenda après le début de la guerre à Gaza pour y intégrer des œuvres de compositeurs israéliens et palestiniens, considérant que la guerre et le génocide sont la forme ultime de la censure. Depuis sa création en 2008, cet ensemble de musiciens a eu la volonté d'inclure plus de diversité dans le choix des membres, des styles abordés, des collaborations, et avec un fort ancrage local. Les douzaines de spectateurs des premiers concerts sont maintenant près de 30 000 chaque année, et la plupart des événements sont gratuits. Ce récent exemple m'a rappelé à quel point on voit la musique occidentale dite classique comme un art assez écarté de la réalité, presque par principe. Comme une bulle qui depuis plusieurs siècles évolue peu et s'adresse à un public restreint et éduqué à cet art. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle de rien, mais dans les sons choisis, les thèmes traités, ils semblent distants, parfois très symboliques, mais très rarement frontales et liés à notre monde. J'exagère fortement le trait, et toute personne connaissant ce genre devrait logiquement me contredire. En fait, la musique en général a tellement varié depuis 150 ans, qu'il devient compliqué de dire ce qui est classique. C'est à la fois un terme qui définit une musique savante, écrite et façonnée en Europe depuis le Moyen-Âge, qu'on met souvent en opposition à la musique populaire et folklorique. Et d'autre part, c'est un courant musical précis de la fin du 18e au début du 19e siècle, période de révolution politique et industrielle. Pour faire une comparaison simpliste, c'est comme l'électro. C'est un terme fourre-tout de la musique électronique et en même temps un sous-genre précis. Ainsi, le classique s'est confronté aux évolutions de la société, et derrière le vernis parfaitement doré de la musique respectable, il y a bien eu des revendications. Comme par exemple le March of the Woman d'Ethel Smith, un véritable hymne pour le droit de vote des femmes en 1911. En fait, l'image du classique perdure parce que le cadre de cette musique est lié à une élite, un pouvoir qui maintient depuis des siècles une soi-disant supériorité culturelle. Comme je disais plus tôt, on l'oppose au populaire, et le peuple, bah, il revendique qu'il a son mot à dire. Et si on peut facilement imaginer un ou une artiste de classique engagée pour une cause, voir tout un orchestre faire de ses principes les fondations de son œuvre est une approche rarissime. Ce n'est déjà plus si courant dans le rock ou le rap, des genres qui portent pourtant un fort poids social et politique, alors dans le classique, qui est le symbole de la musique institutionnelle, légitime, reconnue, ben, j'en connais pas. Et là, on a deux violonistes, une joueuse de viol et un contrebassiste unis dans leur colère contre la machine. Et je trouve très personnellement que ce genre de démarche est importante, parce que la musique a pour but, entre autres, de faire réagir, de plaire ou de déranger, de séduire, de dénoncer, de rassurer, de libérer, et quelle que soit sa forme. Du manifeste le plus acide au moment d'évasion le plus loin de la réalité, il y a une intention qui correspond à une personne à un moment donné. Je vais encore vous bassiner avec le contexte, mais c'est ce qui donne son identité à un morceau. On ne crée pas pour le passé, on s'en inspire mais on écrit dans notre présent, et pour un public actuel. Le passé ne peut pas nous entendre, et le futur, difficile de savoir s'il pourra nous écouter, ou comment il va nous interpréter. Alors autant faire passer son message maintenant, tant qu'il a du sens. Est-ce que vous connaissez d'autres morceaux de classiques engagés ? Et comment ils sont vus maintenant, comparés à l'époque où ils ont été faits ? Je pense soudainement aux hymnes, notamment le nôtre en France, qui est autant un chant qui pousse au soulèvement du peuple qu'une vitrine de l'État. Si vous avez des exemples, venez en parler avec moi sur Instagram ou notre serveur Discord. Et après cette petite chronique, je vous sers quelques petites recommandations. D'abord cette histoire que j'ai vue sur Blabbermouth d'un fossile vieux de près de 200 millions d'années qui a été nommé Serpula Alice Coopery, en l'honneur d'Alice Cooper. Et comme la légende du choc rock atteint 76 ans et près de 60 ans de carrière, ça lui va plutôt bien. C'est d'ailleurs une petite blague récurrente de donner des noms de fossiles à des vieux rockers, ça a déjà été le cas pour Lemmy Kilmister et les Rolling Stones. Ensuite, le portrait de Bandcamp d'un dénommé Mark Harwood, qui, saoulé par la surabondance de musique générique, a décidé de court-circuiter les algos en proposant son propre système de recommandation, MarkGPT. Pour environ 25 livres, il propose de recevoir une création musicale originale selon vos critères, un dessin similaire à la création d'une IA, et un message personnel écrit à la main. Et enfin, comment la musique de l'Afrique de l'Ouest est devenue psychédélique ? Comme à son habitude, l'excellente chaîne Bunsplaining remonte le temps et se penche sur un phénomène musical inattendu dans un pays ou une région du monde souvent mis de côté. Et comme d'hab, le mini-docu en anglais est rempli d'extraits vidéo et de morceaux qui nous montrent à quel point un style musical s'est intégré à la culture locale. Et dans celui-là, j'aurais pu faire une playlist de 50 morceaux. Voilà, j'espère que ce 9e numéro vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à en parler avec moi sur les réseaux et à recommander le podcast aux amateurs de musique et de boissons chaudes. Oui, c'est précis. Et si vous voulez nous soutenir, rejoignez notre page Patreon. Avant de partir, je vous annonce que le millésime arrive très vite, dans quelques jours. Je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve mercredi prochain. Salut !